Bonjour à tous. J'espère que vous profitez de cette belle journée. Je vais commencer par quelques statistiques intéressantes. Avant que vous n'arriviez ici aujourd'hui, c'était un processus qui se répétait sans cesse dans votre esprit. Les scientifiques font des estimations parce qu'ils mesurent tout. Parfois, en regardant les statistiques, on se demande comment ils ont pu mesurer cela. Mais faisons-le pour le bien du message. Toutes les 2 secondes environ, vous faites cette chose, et on estime que vous faites cette chose 35 000 fois par jour. Vous connaissez peut-être cette statistique ou vous l'avez peut-être déjà entendue. Si l'on part du principe que l'on fait cela 35 000 fois par jour et que l'on dort environ 8 heures, cela signifie que l'on fait cela toutes les 2 secondes. Parfois, c'est presque automatique. On n'y pense pas vraiment. D'autres fois, c'est réfléchi. Parfois, c'est difficile. De quoi est-ce que je parle? Je parle de choix ou de décision. On estime que vous prenez environ 35 000 décisions par jour. C'est beaucoup. Toutes les 2 secondes, vous prenez une décision, parfois automatique. Comme dois-je me brosser les dents? Oui, cela devrait être rapide. Si vous êtes jeune, ce n'est peut-être pas si rapide. Pour un enfant de 6 ans, il faut parfois être convaincant pour répondre à cette question. Ou encore, dois-je me peigner? Automatique. Vous n'y réfléchissez pas vraiment parce que vous vous contentez de le faire. Même si votre cerveau prend la décision de vous lever ou non de ce que vous êtes en train de faire pour aller faire cette autre chose. C'est une décision. Elle commence dans votre esprit. Parfois, il faut se demander, qu'est-ce que je vais porter? Ce n'est pas automatique. Il faut y réfléchir un peu plus. Il faut penser à l'endroit où l'on va, à ce qui est approprié, etc. Parfois, ces décisions ou ces choses, vous pourriez dire, est-ce que je fais ce qu'il faut? Ou quelle est la chose que je fais? Ou quelle décision suis-je en train de prendre? Parfois, cela implique d'autres personnes. Vous souriez à quelqu'un. C'est une décision que vous avez prise de regarder cette personne en face et de lui sourire. Dois-je tenir la porte à quelqu'un? Parfois, il s'agit d'une décision complètement privée dans votre esprit. Reprenons l'analogie de la porte ouverte. Si vous avez déjà marché vers un bâtiment, vous voyez quelqu'un arriver à une certaine distance et vous faites l'une des 2 choses suivantes, soit vous changez de rythme pour pouvoir atteindre la porte et lui tenir la main, soit vous accélérez tellement que vous pouvez atteindre la porte et que la personne est partie avant qu'elle n'arrive. C'est une décision que vous prenez dans votre tête. C'est silencieux. C'est comme jeter des ordures. Pour moi, jeter des ordures est le plus grand test de caractère que l'on puisse faire, parce que c'est quelque chose que l'on peut faire en privé. Vous pouvez jeter vos ordures sans que personne ne vous voie. Mais cela en dit long sur ce que vous pensez du respect de la loi, d'une part, mais aussi de ce qu'il convient de faire. Car toute décision n'est pas forcément juste ou injuste. Mais chaque décision nous aide, vous et moi, à nous améliorer lorsque nous devons prendre les décisions justes. Ce sont les petites choses qui nous aident à devenir meilleurs pour les plus difficiles. Cela se construit et se construit. Examinons donc les décisions simples, qui deviennent progressivement plus difficiles, pour arriver finalement à un niveau qui nous aide à construire le caractère de Dieu. En ces jours de pain sans levain où vous entendez ceci, c'est en fin de compte ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'être comme Dieu, comme Christ. Nous essayons de nous aplatir. Alors, construisons ce caractère en prenant des décisions. Quand le bien est facile, il n'est pas difficile à faire. J'aime l'altruisme. Parfois, on peut dire quelque chose qui semble si profond, mais qui est si bête parce qu'on ne fait que répéter la même chose. Quand il est facile de prendre la bonne décision, ce n'est pas difficile à faire. Et voilà. On se sent bien, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que l'on construit un caractère. Lorsqu'il est facile de prendre une décision, il n'est pas nécessaire d'y réfléchir longuement. C'est une chose simple à faire, et c'est automatique. La plupart du temps, surtout pour les chrétiens, c'est encore plus vrai. Et le monde est peut-être moins commun. Examinons en une série. Le premier, les petits actes de gentillesse. Les petits actes de gentillesse. D'accord, souvenez-vous qu'ils vont devenir plus difficiles au fur et à mesure que nous avançons, mais ils s'appuient les uns sur les autres. De petits actes de gentillesse. Il peut s'agir de sourire à un inconnu. Je ne sais pas si les femmes le font, mais les hommes le font tout le temps. C'est le hochement de tête en marchant. Vous ne dites pas bonjour. Vous n'avez pas besoin de sourire. C'est juste un signe de tête. Je pense que c'est un truc de gars. Peut-être que les femmes le font aussi, mais je ne suis pas une femme, alors je ne sais pas. Et pour tenir la porte ouverte, de toutes petites choses. On salue les gens en disant « bonjour ». C'est de la politesse de base, qui malheureusement n'est plus si basique. Les gens tiennent la porte ou les gens sont offensés que vous leur teniez la porte. J'en ai fait l'expérience en grandissant au Canada. Il y a deux ou trois choses que l'on fait en tant que Canadien. Je crois que je l'ai déjà dit. Tenir la porte est un élément fondamental de notre culture. Vous tenez toujours la porte à quelqu'un, et si vous voyez quelqu'un tenir la porte, vous accélérez pour qu'il n'ait pas à tenir la porte si longtemps. C'est ancré en nous encore et encore, tout comme le côté droit du trottoir est celui où l'on marche. Je me souviens que dans les couloirs du lycée et de l'école primaire, on marche sur le côté droit, pas sur le côté gauche. Le côté gauche est réservé aux véhicules venant en sens inverse. Ce sont des choses que l'on apprend en grandissant. C'est tout simplement élémentaire. C'est comme aller dans un verger de pommiers et dire « D'accord, voyons voir. Je vais cueillir les fruits les plus faciles à cueillir, si vous voulez. » C'est la chose la plus facile. Les fruits faciles à cueillir. Ouvrons nos Bibles au chapitre 3 des Proverbes. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce chapitre, nous allons en voir de nombreux aspects, dont certains concernent le service. Dans la Bible, lorsqu'il est question de prise de décision, c'est souvent pour servir, mais ce n'est pas ce que nous allons faire, car parfois, les décisions les plus difficiles à prendre ne concernent pas nécessairement le service. Les décisions les plus faciles le sont généralement. Proverbes, chapitre 3. Nous commencerons au verset 27. Proverbes 3, 27. Ne refuse pas le bien à ceux à qui il est dû, quand il est en ton pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton prochain, va, et reviens, et demain je te donnerai quand tu auras ce qu'il te faut. Le proverbe explique donc que lorsqu'une occasion d'aider, en l'occurrence un voisin, se présente, nous devons profiter. C'est la bonne chose à faire, mais c'est aussi très facile. S'il y a quelque chose devant vous, cette personne à qui vous tenez la porte ou votre voisin qui vous dit « ça vous dérangerait de m'aider avec X » et que c'est une chose très simple, qui vous prend 3 secondes. Pourriez-vous tenir ce râteau une seconde? Vos deux personnes en train de faire du jardinage, oh bien sûr, pas de problème. Ce ne sont que de simples petits gestes. Être aimable. Être poli lorsque la situation se présente. Il ne s'agit pas de sortir et de rechercher activement des choses. Il s'agit en fait d'attendre que quelque chose se présente, puis de choisir de faire ce qu'il faut, mais des choses simples, pas difficiles. Sourire, saluer quelqu'un, être poli, dire merci. On ne cherche pas à remercier quelqu'un. Vous vous dites, je ne peux pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour lui dire merci de rien. Il faut un merci pour obtenir un de rien. Non, il faut le faire quand l'occasion se présente. Passons maintenant au Nouveau Testament, à Luc. Luc, chapitre 6. Luc 6. Nous reprenons au verset 30. Le verset 30 dit, donnez à quiconque vous demande, et à celui qui vous prend vos biens, ne les redemandez pas. Donnez ce qu'on vous présente, et ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Faites de même avec eux. Si vous voulez que les gens vous traitent d'une certaine manière, traitez-les d'une certaine manière. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, que vous faut-il remercier? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, que vous en soyez remercié, car les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir quelque chose en retour, quelle reconnaissance avez-vous? Car les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs pour en recevoir autant en retour. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les infidèles et pour les méchants. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de vos frères et sœurs dans l'Église, non. Quand l'occasion se présente, des pécheurs, des gens qui ne sont pas convertis, alors vous aidez. C'est ce que nous faisons. Il peut s'agir de voisins, des collègues de travail. Cela peut être quelqu'un dans une épicerie. Vous l'avez entendu récemment dans un sermon à propos d'une petite dame âgée qui avait besoin d'aide pour faire ses courses. Lorsque l'occasion se présente, la bonne chose à faire est d'aider. Ces gestes semblent si petits, n'est-ce pas? De petits actes minuscules qui ne sont pas vraiment énormes par nature, mais qui sont énormes pour aider à construire les fondations lorsque les choses deviennent plus difficiles. Passons au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Dans le livre, Hébreux 13, quelques versets ici. Nous commencerons par le verset 15. Le verset 15 se lit comme suit dans le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. C'est donc par lui que nous offrons continuellement à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom. Mais n'oublions pas de faire le bien et de communiquer, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Faire le bien, faire le droit, et communiquer, c'est-à-dire que lorsque vous saluez les gens, vous communiquez, mais cela peut signifier beaucoup, beaucoup de choses. Un sourire, un mot gentil. Vous pouvez penser à Dieu qui dit de faire cela, donc c'est de plusieurs façons. Et chaque fois que vous voyez une chose à faire dans la Bible, vous pouvez l'appeler un commandement. C'est la parole de Dieu. Chaque fois que la Bible dit, faites quelque chose. Dans ce cas, faites le bien et communiquez, c'est un commandement. C'est un petit commandement, mais c'est un commandement. Parce que ces petits commandements jettent les bases qui nous permettront de faire des choix et de déterminer s'ils sont justes ou non. Sont-ils justes? Car c'est là que les choses deviennent plus difficiles. Ce sont de petits actes de gentillesse. Nous devons créer cette habitude. Cela devrait être automatique. Quand on éduque un enfant, on remarque les choses qu'il faut éduquer et qui ne sont pas automatiques chez les êtres humains, et il faut du temps et de la patience pour faire en sorte que des choses comme les remerciements deviennent une réponse automatique. C'était la première chose à faire. Deuxièmement, se porter volontaire pour des engagements. Se porter volontaire pour des engagements. C'est l'étape suivante. C'est un peu plus difficile. Ce n'est pas une occasion de faire le bien ou de servir, ou quoi que ce soit d'autre, qui se présente. Non, c'est maintenant que vous avez franchi l'étape suivante. Vous sortez et vous prenez votre temps pour vous engager dans ce que vous voulez. Il pourrait s'agir, reprenons les analogies que nous avons déjà faites, d'un voisin, d'une voisine, d'une femme, d'un homme. Le voisin travaille à côté. Il ne vous demande pas d'appuyer le râteau contre l'arbre dans votre cour, non. Vous allez dans son jardin et vous lui dites, « Vous avez l'air d'avoir les mains pleines, avez-vous besoin d'un peu d'aide ?» Vous regardez la tâche, ces 5 minutes où ils transportent quelque chose dans leur garage, vous savez quoi ? Laissez-moi vous donner un coup de main. Il est tout aussi facile pour vous et moi d'entrer dans notre maison, n'est-ce pas ? Le voisin ne remarquerait probablement même pas que vous vous êtes arrêté, mais dans votre tête, avez-vous pris cette décision ? Avez-vous fait ce qu'il fallait ? Est-ce que cette opportunité ? Il peut s'agir d'un voisin, d'un frère, d'un collègue. Encore une fois, tout cela se mélange. Quelqu'un transporte quelque chose dans le bureau. C'est la même chose. Oh, laissez-moi vous donner un coup de main, laissez-moi vous ouvrir cette porte. Vous pourriez déjà l'avoir franchie. Vous vous souvenez de l'analogie dont nous avons parlé? Lorsque vous voyez quelqu'un arriver et que vous êtes à peu près à la même distance, vous précipitez-vous vers cette porte pour ne pas avoir à attendre cette personne? Ou bien dites-vous, vous savez quoi? Ils avancent un peu lentement. Je vais ralentir un peu, pour que nous ayons le bon timing. Cela me prend un peu de temps. Vous sacrifiez un peu de votre temps. Vous vous portez volontaire, si vous voulez, pour vous engager à faire ce qu'il faut. À bien des égards, vous servez tout en faisant ce qu'il faut. Même s'il s'agit de petites choses dans notre esprit, parce que nous essayons de construire cette habitude. C'est ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous prenons l'habitude de prendre des décisions justes. Qu'il s'agisse de tenir une porte ou de faire quelque chose de complexe que nous verrons bien plus tard et qui pourrait aboutir à un procès. Mais nous le faisons toujours par abondance, n'est-ce pas? Si je prends 2 minutes pour tenir la porte, ou si j'aide mon voisin à porter quelque chose, ou si j'aide un collègue à faire quelque chose dont je n'ai pas besoin parce que je veux qu'il réussisse. Ce sont de petites portions de notre temps qui ne nous frappent pas trop durement. Ce n'est pas vraiment un sacrifice. Il s'agit plutôt d'une politesse élargie, si l'on peut dire. Revenons au Deutéronome 15, dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 15. Silence, Deutéronome, chapitre 15. Et nous reprendrons au verset 9. Le verset 9 dit, « Prends garde qu'il n'y ait dans ton mauvais cœur une pensée qui dise, la 7e année. » Il s'agit de l'année de la libération. La 7e année, l'année du relâche, est proche, et ton œil est méchant contre ton frère pauvre, et tu ne lui donnes rien. Tu ne lui donnes rien parce que tu te dis, j'approche de la 7e année de relâche. Je ne veux pas prêter quelque chose à cette personne parce qu'elle sera libérée dans une autre année. S'il crie à l'Éternel contre toi, ce sera pour toi un péché. Pensez-y. D'accord, dans l'Ancien Testament, nous mettons en place les lois, le Deutéronome ici. Vous avez un frère, nous l'avons donc introduit dans l'Église si vous voulez, et il a un besoin. Dieu dit de ne pas se retenir à cause de ceci, de cela ou d'un autre objectif, dans ce cas l'année de libération, mais il l'applique à une image plus large de ne pas se retenir parce qu'on ne veut pas vraiment faire la chose. Encore une fois, il s'agit de choses mineures qui nous permettent de prendre des décisions. Verset 10, tu lui donneras, Et ton cœur ne s'affligera pas quand tu lui donneras. Car c'est à cause de cela que le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce que tu entreprendras. Verset 11. Car les pauvres ne disparaîtront jamais du pays. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. À tout le monde, en somme. Il ne s'agit pas simplement de réagir aux besoins de quelqu'un, comme nous l'avons peut-être vu dans le premier, si quelqu'un a un besoin, un objectif, une exigence ou une chance que vous ayez besoin de quelque chose, ou qu'ils aient besoin de quelque chose, vous y réagissez. Non, non, cela va plus loin. Il s'agit de rechercher l'opportunité de faire ce qui est juste, de servir, d'aider, d'assister, de prendre la bonne décision, mais avec une main ouverte, avec la bonne attitude. Encore une fois, Dieu. Vous voyez les graines de ceci parce qu'au fur et à mesure que nous augmentons la difficulté de ces décisions dans ce message, vous devez toujours avoir à l'esprit que Dieu bénira la droiture. Dieu bénira les décisions difficiles. Dieu me donnera ce dont j'ai besoin lorsque la décision ne consiste pas à tenir une porte ouverte ou à sourire à quelqu'un, ou à porter quelque chose de simple. Lorsqu'elles deviennent difficiles. Quand elles sont difficiles. Allez à Galates 6. Galates chapitre 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Frères et sœurs, si quelqu'un est surpris par agrafe une faute, vous qui êtes spirituel, rétablissez-le dans un esprit de douceur, en vous appliquant à ne pas être tenté à votre tour. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lorsque nous voyons quelqu'un lutter contre quelque chose, que ce soit sur le plan spirituel ou physique, cela n'a presque pas d'importance. Lorsqu'un fardeau pèse sur quelqu'un, dans ce cas-ci, il s'agit plutôt d'un fardeau spirituel, mais l'accomplissement de la loi du Christ consiste à tendre la main, comme nous l'avons vu dans le Deutéronome, lorsque les gens ont un besoin que vous avez cherché à combler. Vous recherchez ces opportunités. Vous voyez un frère ou une sœur aux prises avec quelque chose. Cela peut être spirituel ou physique. Mais le contexte est le suivant, ce n'est pas eux qui vous ont contacté. C'est vous qui leur avez tendu la main. Vous les avez recherchés. Vous vouliez les aider. Mais s'il s'agit d'une affaire grave, c'est à ce moment-là qu'il faut faire intervenir le ministère, car attention, vous ne voulez pas être tenté comme eux. Vous pourriez être entraîné là-dedans. C'est un danger de division. S'il y a des divisions dans l'Église et que vous avez un frère ou une sœur qui sème la discorde, vous vous dites, d'accord, je vais les mettre sur la bonne voie. Vous commencez à dépasser le niveau de salaire. Vous devez vous tourner vers votre ministre et lui dire, j'ai vu cela, ou vous pouvez admonester cette personne une fois et lui dire, tu dois arrêter cela. Votre esprit n'est pas au bon endroit, surtout si vous êtes proche. Mais si cela se reproduit, il faut faire attention, car la personne peut vous attirer. Disons que vous avez mal au dos, prenons un exemple physique, et que votre voisin porte un piano. Vous devez regarder par-dessus ce voisin et vous dire, « D'accord, dois-je aller l'aider ? J'ai mal au dos. » Et puis vous allez là-bas et vous vous retirez parce que vous savez que vous devriez. Non, réfléchissez à ce que vous faites, surtout sur le plan spirituel, pour vous assurer que vous ne vous laissez pas entraîner dans quelque chose. Mais c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez à aider. Jacques, chapitre 2. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un engagement volontaire. Il s'agit donc de se jeter à l'eau pour aider ou de choisir de faire ce qui est juste. Il s'agit de décisions que nous prenons dans notre esprit avant de faire quoi que ce soit. Tout commence dans l'esprit. Nous commençons à penser à ce que nous allons faire le matin, à la manière dont nous l'appliquons, aux décisions que nous prenons au travail, à notre emploi, avec nos collègues, à la manière dont nous interagissons. Tout cela commence dans l'esprit. Cette action mentale, en particulier l'Esprit de Dieu qui travaille avec notre esprit pour diriger, guider et façonner ses pensées, se transforme en action. Mais tout commence par des décisions. Vous êtes probablement en train de lire Jacques, chapitre 2 et verset 15. Jacques 2, 15. Si un frère ou une sœur élue est sans nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous lui dise « Va-t'en et sois en paix, sois au chaud et rassasié, mais ne lui donne pas ce dont il a besoin pour son corps, à quoi cela sert-il ? » Si vous n'aidez pas quelqu'un lorsqu'il a besoin d'aide, que faisons-nous ? Il est si facile, en tant qu'être humain, d'ignorer les choses parce que le monde est en désordre. C'est la limite à ne pas franchir en tant que chrétien. Il faut dire, d'accord, je n'essaie pas de réparer le monde. Ce n'est pas pour cela que je ne suis pas appelé à cette époque. Au lieu de, quelle est la bonne chose à faire? Quelle est la chose juste à faire? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? C'est ce que vous demandez. Lorsque vous pensez à la bonne chose à faire, vous vous demandez, comme je le ferai aussi, ce que Dieu voudrait que je fasse. Et ensuite, si nous prenons cette décision, parce que parfois nous savons, nous ne le faisons tout simplement pas. C'est là que cela devient plus difficile. Mais la deuxième chose est d'aller au-delà de la simple politesse et de rechercher les occasions de faire le bon appel, d'être utile, de servir, de travailler avec quelqu'un. Il s'agit de rechercher ces occasions et de prendre la décision de faire la différence. Encore une fois, il s'agit de choses relativement simples dans le grand schéma de ce dont nous parlons ici. Rappelez-vous, le premier point concernait les petits actes de gentillesse. Il s'agit ici de construire. Il s'agit de se porter volontaire pour des engagements. Nous faisons donc les petites choses qui se présentent à nous. Nous allons de l'avant et recherchons des opportunités. Puis nous arrivons à la troisième étape, la générosité dérangeante. La générosité gênante. Le simple nom de ce point, je pense, montre bien ce que je veux dire. Il ne s'agit pas simplement de faire le choix difficile de l'abondance ou de la facilité. Les deux premiers sont relativement faciles. Mais par nécessité, nous faisons quelque chose qui est nécessaire et nous choisissons de ne pas l'ignorer. Prenons le cas de ce voisin qui a toujours besoin d'aide. Il vous demande de l'aide, vous voyez bien qu'il a des difficultés, peut-être savez-vous jardiner, mais pas lui, et c'est le désordre dans son jardin. Ils viennent vous voir et vous disent, vous permettez? Je suis coincé. Je ne sais pas quoi faire avec cela, et au fond de votre tête vous vous dites, j'espérais vraiment aller me promener. J'ai fait une promenade, j'ai mis mes chaussures de marche, je suis sur le point de sortir, c'est l'occasion pour moi d'aller faire ma promenade quotidienne. C'est interrompre quelque chose que vous aviez déjà prévu de faire. Vous annulez vos projets pour dire, d'accord, voisin. Bien sûr, je suis heureux d'aider. 3 heures plus tard, vous finissez de transpirer dans le jardin avec ce voisin. C'est un inconvénient, mais vous êtes généreux de votre temps. C'est comme un jour saint, vous donnez un peu plus même si les fonds sont limités. Vous clarifiez les situations lorsque quelqu'un n'a pas la bonne image ou que des pensées erronées s'installent. Vous défendez quelqu'un sans autre raison que vous-même, mais parce que c'est juste. Vous pressez le pas, et c'est là qu'intervient cette générosité qui dérange. Parce que ce n'est pas une question d'argent, parce que la plupart de notre générosité, il y a cet aspect, mais la plus grande partie de notre générosité dans nos vies vient du temps, du fait que nous prenons notre temps pour nous impliquer. Et lorsque nous commençons à nous priver de notre temps, surtout si cela signifie annuler d'autres choses, ou si cela ne convient pas à la situation, nous sommes en train d'insister sur notre propre confort. Les autres choses que nous avons faites avaient tendance à être simples, à ne pas prendre de temps, à n'être que de la politesse, mais maintenant nous commençons à insister sur notre propre confort, n'est-ce pas? Nous commençons à sortir de la simple politesse. À bien des égards, les deux premières étapes n'ont fait qu'aider à construire ces fondations. C'est la première étape où nous commençons à forger notre caractère. Il ne s'agit pas d'une construction de caractère à proprement parler. Non, c'est le début. Parce qu'en tant que chrétiens, nous servons, nous nous sacrifions, nous faisons toutes ces choses. C'est donc lorsque nous commençons à sortir de notre zone de confort que nous entamons le processus de construction d'un caractère divin, d'une plus grande ressemblance avec Christ. Allez au Proverbe. Chapitre 19. Proverbe, chapitre 19. Une petite mise en place positive avant de continuer à réitérer un point. Proverbe, chapitre 19 et verset 17. 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur. Lorsque nous faisons des choses en dehors de notre zone de confort, lorsque nous devons prendre une décision qui est juste, mais inconfortable, Dieu dit, lorsque vous faites cela, parce que dans ce cas, il parle d'avoir pitié des pauvres, mais en fin de compte, il s'agit de la décision juste. Si vous avez pitié des pauvres, vous avez pris la décision d'aider quelqu'un. Et Dieu dit, c'est à moi que tu fais cela. Lorsque je prends une décision qui me fait sortir de ma zone de confort et que je fais quelque chose qui me prend du temps, qui est d'une générosité incommode, si vous voulez, Dieu me dit, quoi que tu aies fait, c'est à moi que tu l'as fait. Puis, en tant que donateur de toutes choses, le verset continue. Et ce qu'il a donné, il le lui rendra. Dieu bénit ce désagrément. Dieu bénit le sacrifice. Bien sûr, il le fait. C'est tout le processus, la boucle de rétroaction positive du christianisme, nous servons et nous nous sacrifions. Nous faisons ce qu'il faut, encore et encore, et Dieu nous dit, « Je vais vous bénir ». Et quand on est nouveau dans ce mode de vie, c'est probablement un peu difficile à croire. Les étapes 1 et 2 deviennent très importantes, n'est-ce pas? Lorsque vous faites ce qu'il faut, vous commencez à voir Dieu vous bénir, vous commencez à faire des choses, vous êtes testé, vous êtes mis à l'épreuve, les choses deviennent plus difficiles et vous devez prendre une décision difficile. Vous voyez que Dieu vous bénit pour avoir fait ce qu'il fallait faire. Cela devient plus facile. Plus facile. Pas facile parce que vous construisez la foi, vous construisez la force. Passons au chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième Corinthiens, chapitre 8. Corinthe était une congrégation très intéressante. Elle avait toutes sortes de problèmes. Souvent, il y a beaucoup de pépites ici si vous lisez ces deux livres. Nous voici au chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens, et nous commencerons au verset 10. C'est ici que je donne mon avis. Ne serait-ce pas génial que Paul vienne vous voir et vous dise « Je veux juste vous donner un petit conseil ». Il aurait attiré votre attention, n'est-ce pas? Oh, c'est l'apôtre Paul. Bien sûr, donnez-moi votre avis car il est opportun pour vous. Qui avait déjà commencé, non seulement de faire, mais aussi d'être en avant il y a un an. Le temps a donc passé. Maintenant, accomplissez l'action, afin que, de même que vous étiez prêt à vouloir, vous accomplissiez aussi ce que vous avez. D'accord, l'action se poursuit donc ici. Car s'il y a d'abord une volonté, ce que nous devons faire, elle est acceptée selon l'homme qui a et non selon ce qu'il n'a pas. Vous seriez disposé à le faire. Encore une fois, les décisions se prennent dans l'esprit. Mais par l'égalité, afin que maintenant, en ce moment, votre abondance soit une provision pour leurs besoins, que leur abondance soit aussi une provision pour votre besoin, afin qu'il y ait égalité. Lorsque vous donnez en retour parce que vous voulez donner, parce que cela prend sur ce que vous avez, sur votre temps, sur votre sacrifice, cela reviendra. Chez les chrétiens, cela va et vient. C'est la chose étonnante avec le mode de vie de Dieu, c'est que si nous vivons tous en donnant aux autres, si nous pensons aux autres, si nous nous concentrons sur les autres, et si nous ne nous concentrons pas sur nous-mêmes, si tout le monde fait cela, alors vous ou moi, en nous concentrant sur les autres, en aidant les autres, en faisant ce qu'il faut pour les autres, cela signifie que les gens le feront en retour pour vous. Vous ne pouvez pas vous y attendre, car vous faites maintenant ce que fait le pécheur, vous attendez quelque chose en retour de ce que vous faites. Dieu dit clairement dans l'Ancien et le Nouveau Testament que lorsque nous donnons, nous recevons en retour. Lorsque nous faisons du bien aux autres, nous recevons du bien en retour. Peut-être pas par cette personne, mais par quelqu'un. En fin de compte, par Dieu. Il faut garder cela dans sa poche arrière. Il faut le réprimer un peu. Si vous vous promenez en pensant, « Vous savez quoi, je vais être gentil avec les gens parce que Dieu promet qu'ils seront gentils avec moi, pas avec cette personne, mais je recevrai de bonnes choses en retour. Je vais faire un tas de bonnes choses pour obtenir des choses. » Eh bien, c'est, une mauvaise façon de penser. Mais si vous savez que cela arrivera, mais que vous voulez donner de l'abondance de votre cœur, souvenez-vous de la générosité inconvenante, vous pouvez savoir que Dieu vous soutiendra. Dieu le soutiendra. Il s'agit simplement d'être généreux dans ce que nous faisons. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de notre temps, de nos efforts et des décisions que nous prenons chaque jour. N'oubliez pas que toutes les 2 secondes, nous prenons ces décisions et que, lorsque nous les prenons, elles se répartissent en 2 catégories, bonnes ou mauvaises. Il y a du gris entre les deux, mais en fin de compte, c'est bien ou mal. Juste ou pas juste, une fois que vous arrivez à ce niveau. Sourire à quelqu'un n'est pas une décision juste ou injuste. Si vous ne souriez pas à quelqu'un, vous n'êtes pas un pécheur. Non. C'est une bonne chose de sourire parce qu'on est une lumière. Il y a une certaine justice à faire même ces choses simples, mais lorsque cela commence à nous déranger, alors nous construisons à nouveau les points de départ de la construction du caractère. Allez à Luc 21. Luc chapitre 21, vers la fin du livre. Luc 21 est le premier verset. Il leva les yeux et vit un homme riche qui jetait ses dons dans le trésor. Vous savez que cela représente Christ. Il regarda les riches, et il vit aussi une pauvre veuve qui jetait 2 pièces, un tout petit peu d'argent, des sous, si vous voulez. Et il dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous, non pas un seul riche, mais tous les riches qui ont donné tout leur argent. Cette pauvre petite veuve a donné plus que tous. » Verset 4. Tous ceux-là, en effet, ont présenté à Dieu leur offrande, selon leur abondance. C'est facile. Si j'ai 1 million de dollars, que j'entre et que je me dis que je vais donner et que je donne 1 000 dollars, c'est une erreur d'arrondi. Ou si j'ai 1 milliard de dollars et que je donne 10 000, c'est une erreur d'arrondi. Cela semble énorme. 1 000 dollars, c'est beaucoup d'argent pour moi, mais si j'ai 1 million ou 1 milliard de dollars, 1 000 dollars, ce n'est peut-être pas grand-chose. C'est facile. C'est une ou deux choses sur cette liste, rappelez-vous, les choses simples, mais en poursuivant le verset et les offrandes de Dieu. Bézel de El, ce mot signifie déficit ou pauvreté. C'est la pénurie. Il signifie déficit ou pauvreté, et elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a pris sur, non pas son abondance, mais sur son déficit, et a voulu donner. Frères et sœurs, c'est ce que nous devrions faire de notre temps. Nous n'arrivons pas à ces moments de temps, d'offrande, de sacrifice financier ou d'aide aux autres avant d'avoir pris la décision de le faire. Encore une fois, elle commence dans notre esprit. Tout ce dont nous parlons est une de ces décisions que nous devons prendre dans notre esprit et ces décisions commencent dans notre tête, est-ce bien ou non? Ce n'est peut-être pas un péché, mais est-ce juste? Est-ce juste? Elle a donné de sa pauvreté. Elle s'est sacrifiée. C'est le prix à payer. C'est là que Dieu passe à un niveau supérieur. La générosité gênante. Elle a donné quelque chose qui lui a coûté personnellement plus que l'homme riche. Lorsque nous faisons preuve d'une générosité gênante, nous faisons quelque chose qui nous coûte. Que ce soit sur le plan financier, du temps ou autre, cela nous coûte plus cher. Nous avons pris la décision de nous faire perdre du temps, de l'argent, etc. Dieu regarde cela avec tant de compassion et d'attention que l'on peut dire, d'une certaine manière, qu'il a du respect pour ce que nous faisons parce que nous sommes comme lui. Nous sommes comme Christ, nous sommes à plat. Nous sommes comme Christ, nous sommes à plat. C'était le troisième point, la générosité gênante. D'accord. Continuons d'aller un peu plus loin. Numéro 4 ici. Les sacrifices secrets. Les sacrifices secrets. La différence, c'est qu'il ne s'agit pas de donner à cause de notre pauvreté ou de petites choses qui nous dérangent, car ce qui nous dérange, ce n'est pas quelque chose de si important que votre vie va être bouleversée. Non, non. C'est juste un inconvénient. Les sacrifices secrets, c'est quand vous mettez votre cœur et votre âme dans quelque chose et que les gens ne le voient pas. À ce stade, vous commencez à tester votre christianisme. Si vous faites quelque chose pour lequel la personne à qui vous le faites ne vous voit pas, vous savez ce que vous êtes en train de dire? Je n'ai pas besoin d'une récompense de leur part. Je fais confiance à Dieu. Vous faites les choses en secret. Je me souviens d'un exemple que M. Schutt m'a raconté il y a plusieurs années, quelqu'un a emménagé sur le campus. Il s'est faufilé et a déposé une bouteille de champagne sur leur perron, alors que nous étions encore en train de construire le campus, et a caché qu'il l'avait fait. Ce n'était pas évident. Je pense que cette personne a essayé de comprendre et s'est renseignée, et qu'elle a réussi à le faire, parce qu'elle voulait lui dire merci en retour. J'ai toujours gardé à l'esprit l'idée que les meilleures formes de service sont celles pour lesquelles on ne vous reconnaît pas. Les meilleures décisions que l'on prend sont celles dont on ne s'attribue pas le mérite. C'est difficile en tant qu'être humain. Si je fais quelque chose de bien, je veux qu'on me le reconnaisse. Si j'ai une bonne idée. Si vous avez un emploi ou si vous essayez de construire votre carrière ou quoi que ce soit d'autre, si vous avez une très bonne idée, vous voulez qu'on vous en attribue le mérite. En tant qu'être humain, c'est ce que vous essayez de faire parce que vous essayez de construire votre carrière ou quoi que ce soit d'autre, de croire que la bonne chose. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Qu'il est plus important de faire ce qu'il faut que d'être reconnu pour ce qu'il faut faire. Même dans ces moments de tranquillité où vous pensez, où je pense, ou qui que ce soit d'autre, qu'il pourrait s'en tirer. C'est savoir que Dieu voit tout. Revenons à l'Ancien Testament. 1 Samuel 15. Même lorsque nous pensons parfois faire ce qu'il faut, nous devons toujours revenir en arrière et dire, d'accord, Je suis un être humain. Je ne peux pas m'appuyer sur ma propre compréhension. Je sais que je ne peux pas guider mes pas. Je sais que j'ai besoin de la parole de Dieu comme d'une lampe à mes pieds pour guider ce que je fais. Je dois faire ce qu'il veut que je fasse, pas nécessairement ce que je veux que je fasse parce que la situation peut être difficile. 1 Samuel 15. Je vais me tourner vers cette page. Vous y êtes peut-être déjà, et nous commencerons au verset 16. Nous connaissons le récit ici. Nous reprendrons le verset 16. 1 Samuel, chapitre 15, verset 16. Samuel dit à Saül, « Reste, et je te dirai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et il lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Quand tu étais petit à tes yeux, parce que c'est juste après une grande attaque, et les Amalécites, et vous vous souvenez dans ce récit, au lieu de faire ce que Dieu avait dit qu'il devait faire, cela s'est produit. Quand tu étais petit à tes yeux, n'as-tu pas été mis à la tête des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'est-il pas oint comme roi d'Israël ? » Dieu a pris quelqu'un de petit et l'a fait roi. L'Éternel t'a envoyé en voyage et t'a dit, « Va, extermine les pécheurs, les Amalécites, et combat-les jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. » Disparu. Pourquoi n'avez-vous pas obéi à la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas fait ce qu'il fallait? Il était roi. Il peut prendre cette décision, n'est-ce pas? Mais vous avez volé sur le butin et fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Saül dit à Samuel, oui, j'ai obéi à la voix de l'Éternel, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, j'ai fait le bon choix ici, et j'ai suivi la voie où l'Éternel m'avait envoyé, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple. C'est souvent ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés à une situation où nous devons faire ce qui est juste ou non, il est facile de rejeter la faute sur les autres. Il est facile de rejeter la faute sur d'autres personnes. C'est un défaut humain, de laisser les autres prendre la responsabilité des choses. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire cela. Rappelez-vous Adam et Ève dans le jardin, la femme m'a fait manger. Saül n'a pas retenu la leçon, n'est-ce pas? Le peuple prit sur le butin les brebis et les bœufs, les principales choses qui auraient dû être détruites par interdit, et il les offrit en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir à offrir des holocaustes et des sacrifices qu'à obéir à la voix du Seigneur ?» Frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui doit nous pousser à faire ces sacrifices secrets. Ces moments où nous devons faire ce qui est juste. Il ne s'agit pas nécessairement d'une occasion de service. Il peut arriver que vous deviez défendre quelqu'un ou que vous soyez au travail et que votre patron voit quelque chose, qu'il ait une mauvaise opinion et que vous pensiez, « Oh, cette personne n'est pas dépeinte comme elle devrait l'être. » Vous savez quoi? Il faut que je dise quelque chose. Il ne s'agit pas nécessairement d'apporter secrètement quelque chose à quelqu'un pour que ce soit une belle bénédiction ou de payer secrètement l'addition au restaurant ou à la fête. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas nécessairement cela. Il s'agit de ces moments où il pourrait s'agir d'interactions avec d'autres personnes, mais où la partie en question ne verra peut-être jamais ce que vous avez fait. Prenons l'exemple du patron. Si vous clarifiez quelque chose avec votre patron au travail, ou avec un collègue, cela ne fait pas vraiment de différence. Si cette personne repart avec une image claire de la vérité, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait. La personne pour qui vous clarifiez les choses n'a peut-être aucune idée de ce que vous avez fait. Ce qui est juste, c'est d'obéir à la voix du Seigneur, car c'est mieux, comme le dit le verset, mieux que des sacrifices, et mieux que la graisse des béliers. Je me moque des sacrifices. C'est de l'obéissance. C'est faire preuve de justice. C'est de cela qu'il s'agit en ces jours. Les jours du pain levé sont consacrés à l'aplatissement et à la pratique de la justice, à la ressemblance avec Christ. Philippiens 2. Philippiens, chapitre 2. Tout ce que nous faisons dans notre vie vise à ressembler davantage à Dieu. Nous essayons de nous forger un caractère. Pour se forger un caractère, il faut faire les choses à fond. Si c'est facile, nous ne forgeons pas le caractère. C'est simple et clair. Cela pourrait être juste, tenir la porte, sourire, saluer, être poli. C'est bien, mais c'est facile. La facilité ne nous rend pas semblables à Dieu. Cela devient de plus en plus difficile. Au fur et à mesure que nous franchissons ces étapes, cela devient de plus en plus difficile. Plus c'est difficile, plus nous construisons un caractère juste. C'est de cela qu'il s'agit. Nous devons ressembler à Dieu pour devenir Dieu, et la facilité ne nous y conduit pas. La politesse ne nous y conduit pas. C'est vrai. C'est une chose étonnante. Si vous ne faites pas ces choses, vous ressemblez moins à Dieu. Si vous faites ces choses, vous ne construisez pas un caractère pieux. Vous ne faites que les choses de base. Vous êtes, en fait, un serviteur inutile. Faire des choses élémentaires, faciles et correctes, c'est être un serviteur peu recommandable. Vous faites les choses que vous devriez faire. Lorsque les choses deviennent plus difficiles, c'est là que nous devenons comme Christ. Philippiens, chapitre 2 et verset 1. Philippiens 2, 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a des entrailles et des miséricordes. Je suis heureux que vous soyez semblables, que vous ayez le même amour, que vous soyez d'un même accord, d'un même esprit. Que rien ne soit fait par querelle ou par vaine gloire. Rien ne doit être fait dans notre intérêt. C'est la clé. Nous verrons. Plus c'est difficile, plus nous devrions nous demander si ce que je fais me profite à moi au lieu de profiter à quelqu'un d'autre. C'est là que le bât blesse lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et d'être juste. Est-ce que je fais quelque chose qui me met en valeur, qui me facilite la vie au détriment de quelqu'un d'autre? C'est de la vaine gloire, car elle ne dure pas. Dieu voit clair dans tout cela. Les êtres humains peuvent tomber dans le panneau, mais en fin de compte, Dieu dit, « Tu n'es pas ici pour être un être humain. Tu es ici pour être un être de Dieu. » Continuons ici. Verset 3, querelle ou vaine gloire, mais dans la modestie de l'esprit, estimez les autres supérieurs à vous-même. Lorsque nous regardons d'autres personnes et que nous pensons, non, non, ils vont devenir Dieu. Je veux être Dieu, alors je dois les voir comme Dieu. Les frères ou la personne dans l'épicerie, estimez les autres mieux que nous-mêmes, que nous voyons chaque personne que nous rencontrons comme un être de Dieu potentiel, parce que c'est ce que Dieu fait. Il a sacrifié Christ que nous avons vu lors de la Pâque il y a quelques jours. Il a permis que cela se produise parce qu'il voyait des êtres divins dans chaque être humain. Le potentiel. Nous pouvons prendre de mauvaises décisions. Nous pouvons quitter l'Église. Nous pouvons démissionner. Nous pouvons commettre un suicide spirituel, mais en général, ces actes surviennent après avoir pris la mauvaise décision à plusieurs reprises. Parfois en privé. Parfois jamais connu, sauf de Dieu. Lorsque nous commençons à prendre des décisions injustes, parce qu'une fois que nous atteignons ce niveau, nous arrivons à ce sacrifice secret. Nous arrivons à un niveau où cela nous affecte réellement. Lorsque nous continuons à prendre de mauvaises décisions, Il devient plus facile de prendre de mauvaises décisions, mais en fin de compte, cela nous éloigne de Dieu, parce que maintenant nous ne prenons pas les bonnes décisions. Verset 4. Que chacun ne regarde pas à ses propres affaires, mais que chacun regarde aussi aux affaires d'autrui. Parce que tout tourne autour des autres. Qu'il y ait en vous cette pensée qui était aussi dans Christ Jésus. L'amour sacrificiel, si vous voulez, devient le summum de la prise de décision juste. Lorsque nous sommes prêts à nous sacrifier en public ou en privé, ou à prendre des éléments de notre caractère qui disent non, 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 c'est bien, nous construisons l'amour à l'image du Christ. Nous ressemblons au Père, surtout lorsque cela crée des situations d'unité, maintient les frères en paix les uns avec les autres. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement des uns et des autres. Bien sûr, nous devrions faire plus pour la maison de Dieu. Oui, à 100%. Il y a tout simplement plus d'opportunités pour cela. Cela ne veut pas dire que nous évitons les autres. On ne salue pas la personne. On s'arrête au stop. Vous connaissez ce moment où vous vous arrêtez tous les deux en même temps, et vous continuez à avancer, parce que vous savez quoi? La personne à ma gauche est un pécheur. Je ne vais pas lui faire signe de franchir le panneau d'arrêt et la laisser passer en premier. Nous montrons notre exemple en tant que chrétiens par la manière dont nous traitons ceux qui ne sont pas convertis. Plus encore, si quelqu'un est converti et qu'il y a des griefs ou des problèmes, ou quoi que ce soit d'autre, il faut régler le problème. C'est à cela que sert Matthieu 18. Faites le tri. Encore une fois, rappelez-vous, même nous devons aimer nos ennemis, les traiter correctement, faire des choses qui leur sont utiles. Jean, chapitre 15. Revenons quelques chapitres en arrière. Jean, notre livre. Jean, chapitre 15. L'acte ultime que nous verrons ici. Nous venons de le commémorer avec la Pâque. Jean chapitre 15. Ce seront des mots très familiers. Au verset 9, nous commencerons. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Persévérez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, persévérez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme le Père a gardé les commandements du Père, et vous demeurerez dans son amour, comme Christ les a gardés. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Christ s'est sacrifié. S'il n'y avait pas eu la Bible. C'est une chose étonnante, n'est-ce pas? Non, au moins Dieu l'a inspiré. Sans la Bible, nous n'en saurions rien. C'était il y a 2000 ans. Aucun autre livre d'histoire ne parle de la vie du Christ. Il y a la Bible. On pourrait dire que c'était l'ultime sacrifice secret, n'est-ce pas? Comme il se doit, Dieu l'a mis par écrit. Nous avons l'occasion de voir l'exemple et d'essayer de vivre et d'être comme lui. Les sacrifices secrets. C'était le quatrième point. Cinquièmement, les choses changent. J'appelle cela faire ce qu'il faut quand c'est difficile. C'est le moment où l'on passe de l'action secrète à l'action utile, où l'on dit quelque chose à son patron ou à son collègue pour clarifier la situation. Lorsque vous faites ce qui est juste alors que c'est difficile, cela signifie généralement que vous souffrez de persécution. Le résultat de la bonne action entraîne la persécution. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous forgeons notre caractère. Lorsque nous savons que nous pourrions être persécutés, avoir des ennuis, être attaqués, nous devons faire ce qui est juste. Dieu dit, tu es un chrétien qui mûrit. Je peux te tester maintenant. C'est une question difficile, et elle a une variété d'applications dont je pourrais donner des exemples et des exemples et des exemples. Chacun d'entre nous va connaître ces moments où, dans son esprit, il se dit, oh là là, cela va être difficile à dire, cela va être difficile à faire. Cela va être difficile à faire. La chose facile est X. La bonne chose est Y parce que c'est généralement facile, difficile, facile, juste. Alors nous faisons la bonne chose, et nous sommes persécutés, nous sommes attaqués, nous avons des problèmes, nous sommes corrigés, peu importe ce que c'est. Vous ou moi, quiconque se trouve dans cette situation, venons de construire un caractère pieux. C'est une pierre, une brique sur ce mur, pour être plus fort, et ce n'est pas facile. N'oubliez pas que la facilité ne permet pas de forger le caractère. C'est là que le christianisme devient réel. Dans le monde, il y a souvent des gens qui essaient, mais souvent les gens ne font pas ce qu'il faut quand c'est difficile. On s'en détourne. Revenons à l'analogie de la rencontre avec quelqu'un à la porte. C'est un exemple facile, mais disons que cette personne porte des poids de 300 livres. Vous savez que vous pourriez arriver à cette porte sans aider cette personne. Elle a l'air de se débattre, puis vous grognez et vous dites, « Bon, maintenant je vais faire ce qu'il faut. » La personne répond, « Qu'est-ce que tu crois faire ? » Je suis parfaitement capable de porter ces poids. J'ai parfois vu le regard, mais j'ai entendu des gens dire qu'ils avaient reçu plus qu'un regard. Quand vous tenez la porte à une femme, parce que les gens devraient ouvrir à n'importe qui, mais surtout à une femme, et qu'on vous regarde en disant « Pourquoi tu tiens la porte ?»« Je suis parfaitement capable d'ouvrir la porte. » Dans votre tête, vous vous dites « J'espère bien, vous marchez, donc oui, vous pourriez ouvrir la porte, mais je suis poli, espèce de crétin. » Non, on peut parfois faire ce qu'il faut, surtout quand c'est plus difficile et qu'on risque d'être persécuté pour cela. Il s'agit d'un christianisme de niveau universitaire lorsque vous êtes ici. Dieu ne vous fera pas nécessairement subir cela dès le début. Plus vous êtes jeune dans votre marche chrétienne, moins cela arrivera. Plus nous sommes mûrs en tant que chrétiens, plus Dieu utilisera cela comme un test ou permettra que cela se produise, parce qu'il veut voir. Rappelez-vous, il va nous donner la divinité, si vous voulez, l'Esprit de Dieu. Nous allons être transformés pour faire partie de la famille de Dieu. Il veut savoir ce que son investissement va lui rapporter. Cela a déjà été fait avec Satan. Dieu ne permettra pas que cela se produise. Il va nous mettre à l'épreuve pour voir si nous ferons ce qui est juste, même si c'est difficile. J'ai eu l'occasion d'être au siège pendant une vingtaine d'années. Au cours de cette période, j'ai vu des gens aller et venir, et d'autres durer. Certains endurent, d'autres viennent, d'autres partent. En général, ce qui se passe, parce que cela commence, et que c'est l'occasion de le voir au fil du temps et de relier certains de ces points, et c'est quelque chose que je m'efforce fondamentalement de faire bien. C'est quelque chose que je m'efforce fondamentalement de bien faire. Les occasions se présentent de faire ce qu'il faut, et les gens ne le font pas parce que c'est difficile. Cela peut être relativement mineur sur le moment, mais lorsque cela se présente à eux, ils ont la chance de faire quelque chose de bien, même si c'est difficile, même s'ils pourraient être corrigés, même s'ils pourraient être persécutés pour cela, ils ne le font pas, et c'est le premier pas sur le chemin qui mène hors de l'Église. C'est pourquoi Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous le ferons quand ce sera difficile. Le christianisme facile ne forge pas le caractère. C'est merveilleux. Les bénédictions sont merveilleuses, mais elles ne forgent pas le caractère. Le caractère, c'est quand c'est difficile, quand nous devons lutter et nous battre, et traverser une situation par ce que nous savons. Dans ces cas-là, nous savons que ce que nous faisons pourrait nous valoir la persécution, alors nous le choisissons. Nous le choisissons parce que c'est juste. C'est la clé. C'est alors que nous devenons plus semblables à Dieu. Oui, je l'ai vu. Cela arrive. C'est à ce moment-là que Dieu teste le métal, si vous voulez. Psaume 15 ou le psaume 15. Il n'y a pas de chapitre dans les psaumes. Psaume 15 et verset 1. Le psaume de David. Le premier verset du 15e se lit comme suit. Seigneur, qui demeurera dans ton tabernacle? Qui habitera sur ta colline sainte? Celui qui marche dans la droiture, qui pratique la justice. C'est quelque chose que l'on fait. La justice n'est pas quelque chose que l'on est. Être juste est le produit de la pratique de la justice, de l'exercice de la justice, comme il est dit ici, et dit la vérité dans son cœur. Celui qui ne médit pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son prochain, et qui ne l'accable pas d'injures. Qui ne médit pas. Celui qui méprise l'infâme, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Celui qui jure pour son malheur et ne change pas. Celui qui ne met pas son argent à usure, et qui ne prend pas de récompense contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Lorsque nous vivons simplement dans la droiture, nous aidons les gens. Nous ne faisons pas de mal aux gens, même s'ils sont mauvais. Peu importe s'ils sont bons ou s'ils essaient de vivre selon ce mode de vie. Non. Nous travaillons dans la droiture. C'est cela l'intégrité. C'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation, choisit de faire ce qui est juste. Frères et sœurs, nous ne ferons pas toujours ce qu'il faut. Il est étonnant de savoir que l'on a fait quelque chose qui n'était pas juste. Même s'il n'y a pas eu de répercussions, vous savez, je sais. Je sais qu'au fil des ans, si j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire ou que je n'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire, mon esprit conscient, l'esprit de Dieu en moi dit non. Parfois, il faut laisser tomber et se dire, vous savez quoi? Non, la prochaine fois, je m'assurerai de faire ce qu'il faut. Je ne vais pas le laisser échouer. Nous devons nous en tenir à ce que nous croyons. Nous devons faire ce qui va, ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Nous l'avons vu. Ça l'a fait. Non, non. Nous vivons selon les paroles de Dieu. Nous devenons comme Christ. Romains, chapitre 5. Romains chapitre 5. Ce ne sera pas facile. Le caractère, encore une fois, ne se construit pas quand les choses sont faciles. Romains chapitre 5. Et nous commencerons au verset 1. Romains 5, 1. C'est pourquoi, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui aussi que nous avons accès, par la foi, à la grâce dans laquelle nous nous trouvons, et que nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations, nous nous en glorifions, sachant que la tribulation produit la patience, l'expérience, l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne fait pas rougir, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Dieu est mort au temps voulu pour les impies. Il fut un temps où nous ne connaissions pas ce mode de vie. Nous jouions au jeu du monde, quels que soient nos antécédents à l'époque, la façon dont nous avions été élevés, que nous soyons religieux ou non. C'est à cette époque, il y a 2000 ans, que Christ est mort pour nous. Il a choisi d'être un être divin qui s'en est dépouillé pour devenir chair, pour ne pas pécher et pour mourir d'une mort atroce pour nous. Il dit ici par l'intermédiaire de Paul, « Glorifiez-vous dans les tribulations. » Quand vous faites cela, vous savez que Dieu travaille avec patience, et grâce à la patience, vous avez de l'expérience. Tu sais pourquoi il est question d'expérience? Vous avez de la patience et de l'expérience? Parce que si vous l'avez fait suffisamment de fois, vous commencez à être sûr de faire ce qu'il faut, parce que vous savez que Dieu vous soutiendra. Cela ne commence pas au début. Les moments les plus difficiles sont les premières fois où vous vous dites « Oh, c'est une décision difficile à prendre. C'est la bonne chose à faire, mais je vois la persécution. Je vois la personne se mettre en colère si je fais cette bonne chose. » Les premières fois, c'est difficile, mais Dieu augmente la pression pour qu'il ne s'agisse plus que d'exemples que l'on fait quelquefois et que l'on pense « D'accord. Dieu va me soutenir. » Dieu augmente la pression ou rend l'appel un peu plus difficile à faire. C'est un christianisme plus mûr quand il s'agit de noir et de blanc, et que nous devons choisir le blanc comme étant la bonne décision et le noir comme étant de l'autre côté du fossé. C'est évident. C'est la bonne décision. Si nous choisissons de ne pas le faire aussi mal, nous choisissons de le faire même si nous souffrons de persécution. On se dit, d'accord, c'était un choix facile à faire. Au fur et à mesure que vous mûrissez en tant que chrétien, Dieu prend ces deux options et les rapproche. Au fur et à mesure que notre discernement spirituel s'affermit, le bien et le mal se rapprochent. Dieu dit que même si l'on peut justifier le mal, quand on fait le bien, on forge son caractère, parce qu'on est plus mûr spirituellement. Rend les choses plus difficiles, devient plus difficile. Nous allons au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12 et verset 9. Hébreux 12, verset 9. Nous avons eu des pères dans notre chair qui nous ont corrigés, et nous les avons respectés. Ne devrions-nous pas plutôt être soumis au Père des Esprits, et vivre? Nous avons eu des parents qui nous ont corrigés. La correction est une bonne chose. Elle était au-dessus de nous. Vous pouvez être corrigé par votre ministre, par votre parent. Vous pouvez être plus jeune et quelqu'un de plus âgé dans la foi peut vous corriger. La correction se produit. Verset 10. Car, en vérité, pendant quelques jours, ils nous ont châtiés selon leur bon plaisir, mais lui, c'est pour notre bien, Dieu travaille avec nous, il nous place dans ces situations pour que nous puissions nous développer, afin que nous devenions participants de sa sainteté. Nous pouvons goûter à l'éternité. Maintenant, aucun châtiment pour le présent ne semble être joyeux. Non. Surtout quand on sait qu'il va arriver. Si vous savez que vous devez parler, vous savez que vous devez dire quelque chose, vous savez que vous devez faire le bien dans une situation, et que vous savez que vous pourriez en être persécuté, certainement pas joyeux, mais affligeant. Cependant, elle produit ensuite le fruit paisible de la justice, en exerçant la justice, et à ceux qui sont exercés par elle. C'est par elle que se relèvent les mains qui s'abaissent et les genoux qui chancellent. Si vous voyez venir la persécution, si vous voyez venir la correction, vous n'êtes pas enthousiaste. Personne ne l'est, mais en même temps, nous nous glorifions de la tribulation parce que nous savons que le résultat de cette tribulation nous donne de la patience et de l'expérience, et nous rend plus forts. Ce n'est jamais facile, surtout quand on mûrit dans le christianisme. Dieu peut vous placer dans une situation, au travail, à l'école ou ailleurs, et vous devez prendre une décision, est-ce que je dis quelque chose ou est-ce que je ne dis rien? Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Comme nous l'avons dit précédemment, Le moyen de discernement consiste généralement à dire quelque chose ou à ne pas dire quelque chose, car il peut s'agir dans les deux cas d'un choix judicieux. Faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, les deux peuvent être de bons choix en fonction de la situation. Comment le savoir? Comment discerner cela? C'est simple. Est-ce que le fait de ne pas dire quelque chose ou de dire quelque chose va me profiter, ou est-ce que cela va profiter à quelqu'un d'autre, même si j'en subis les conséquences? Lorsque nous savons que le fait de nous taire dans une situation donnée profitera à quelqu'un d'autre, nous nous asseyons et nous nous disons que c'est la bonne décision, même si je n'en profite pas moi-même, ou si je ne dis pas quelque chose. Je ne dis rien. Cela dépend, parce que tout ce que nous faisons avec le christianisme concerne les autres. Dois-je agir ou ne pas agir? Si agir est quelqu'un d'autre, alors j'agis même si cela peut me faire du mal. Si ne pas agir peut aider quelqu'un d'autre, alors je n'agis pas même si cela peut me faire du mal, parce que Christ est mort pour nous. C'est le sacrifice ultime. C'est le caractère que nous voulons avoir en nous. Frères et sœurs, cela demande de la foi. Il faut de la foi pour pouvoir s'avancer et savoir que l'on peut prendre un coup sur les épaules à cause de quelque chose que l'on fait parce que cela aide d'autres personnes. C'est cela travailler pour la justice, et c'est difficile, mais la récompense est si grande. Vous serez Dieu. Arrêtez-vous et pensez à cela. Je vais être Dieu si nous travaillons chaque jour pour devenir plus semblable à lui. Si nous quittons les jours de pain sans levain et que nous disons, chaque jour, je dois éliminer le levain de ma vie parce que je veux ressembler au Christ. Je veux prendre des décisions justes dans tout ce que je fais parce que je me soucie des autres êtres humains. Je me préoccupe des autres êtres humains, même si je dois me faire frapper pour cela. C'est ce que nous devons faire. C'est ainsi que nous devons vivre notre vie. C'est ainsi que nous construisons un caractère juste. Plus nous le faisons, plus nous nous améliorons, mais plus Dieu nous mettra à l'épreuve, et plus nous serons récompensés. Dieu nous fortifie. Ce n'est pas une question d'une seule fois et c'est tout. Nous devons nous débrouiller seuls, d'accord, merci. Dieu. Non, Dieu nous soutient. Passons à Ésaïe 41. Commençons à conclure ici. Ésaïe chapitre 41, verset 8. Commencez au verset 8. Ésaïe 41 et verset 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, la postérité d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé du milieu de ses chefs, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. C'est ce que nous sommes, frères, nous sommes les serviteurs de Dieu. Je t'ai choisi, il t'a choisi, moi avant la fondation du monde, pourrais-je ajouter, et je ne t'ai pas rejeté. Ne craignez rien, car je suis avec vous. Ne vous effrayez pas. Car je suis votre Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qui a permis que l'éclipse soit parfaite, celui qui peut enrouler cet univers et le faire rejaillir, ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu, je te fortifie. Par Christ, tout est possible. Il peut nous fortifier. Dieu peut nous fortifier. Dieu peut nous fortifier. Nous ne sommes pas seuls lorsque nous devons prendre la bonne décision, Dieu nous soutient. Ces moments de prière silencieuse dans nos têtes lorsque nous devons prendre la bonne décision, Dieu, aide-moi à avoir la force de faire cela. Nous pouvons faire appel à cette force. C'est une promesse, et ensuite il la soutient, puis nous avançons dans la foi. Je vous fortifierai, je vous aiderai. Mes serviteurs, je vous soutiendrai par la droite de ma justice. En fin de compte, notre justice vient de la justice de Dieu, parce que nous travaillons à la justice en vivant, en agissant, en faisant et en étant comme Christ que nous venons d'imaginer mourant pour nous. Frères et sœurs, quel que soit le temps qu'il nous reste, à vous et à moi, dans cette ère, prenez la bonne décision. Je me regarderai dans un miroir et je me dirai, prenez la bonne décision. Encadrez les choses. Dans votre esprit, quelle est la bonne chose à faire? Quand vous dites cela, vous dites, quelle est la bonne chose à faire? Quelle est la bonne chose à faire dans cette situation? Indépendamment du résultat, encore une fois, qu'il s'agisse d'agir ou de ne pas agir, de dire quelque chose ou de ne pas dire quelque chose, quelle est la bonne chose à faire? Si vous faites toujours ce qu'il faut, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Elles peuvent être chaotiques. Il peut y avoir des persécutions. Si nous faisons ce qui est politique, ou si nous faisons ce qui est facile et ne faisons pas ce qui est juste, c'est peut-être plus facile à court terme, mais c'est plus difficile à long terme parce que nous ne construisons pas un caractère sain et juste. Passons à l'épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, et commençons au verset 8. Le verset 8 dit, « À cause de cela, j'ai prié 3 fois le Seigneur, 3 fois, l'infirmité qu'il avait, pour qu'elle s'éloigne de moi. Et il me dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » L'être humain est faible, mais par Dieu, il peut nous fortifier. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes infirmités, de nos faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses. Prendre plaisir aux faiblesses humaines, en sachant que je suis ce vaisseau faible qui a besoin de l'assistance de Dieu. Dans les infirmités, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, parce qu'elles surviennent lorsque nous faisons ce qu'il faut, et, dans les angoisses pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, alors, parce que Dieu, à travers vous, vous aide à faire le bon choix, vous aide à construire un caractère sain et juste, alors je suis fort. Frères et sœurs, les choix difficiles, les décisions difficiles sont des occasions pour nous de grandir spirituellement. On n'en a pas tous les jours. Ce n'est pas la 3e décision que l'on prend toutes les 2 secondes. Comme, ok, chaque minute je vais avoir une de ces décisions difficiles. Non, non, Dieu est aimant. Elle ne se présente pas toujours à elle-même. Il y a beaucoup de décisions qui sont simplement polies, beaucoup de décisions qui sont automatiques, mais au fur et à mesure que nous grandissons en tant que chrétiens, nous rencontrerons des décisions qui mettront à l'épreuve notre christianisme pour faire ce qui est juste. Saisissez ces opportunités avec foi, en sachant que Dieu vous donne de la force. Si vous faites un pas dans la foi et dites, « Dieu, donne-moi la force de prendre la bonne décision », il vous soutiendra. Il vous rendra fort. Chaque jour, lorsque vous prendrez ces décisions, certaines faciles, d'autres difficiles, au fur et à mesure que vous suivrez ce chemin de vie, lorsque les années se transformeront en décennies, nous aurons peut-être le temps pour cela, Dieu vous mettra à l'épreuve. Prenez des décisions justes ou correctes sur de petites choses. Encadrez tout ce que nous faisons dans un contexte où cela devient presque automatique. Est-ce bien? Je vais faire ce qu'il faut. Je vais refaire ce qui est juste. Si nous nous exerçons, nous serons mieux armés lorsque les décisions seront difficiles à prendre. En faisant cela, nous nous forgerons un caractère juste. Nous deviendrons comme Dieu, et lorsque nous nous tiendrons devant lui au moment du jugement, nous nous tiendrons devant lui avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait.